Je dis quelques mots rapidement sur les programmes et les contenus de ces enseignements. Vous le savez, l'enseignement de philosophie dans l'université française a été conçu au début du XIXe siècle dans une perspective résolument spiritualiste. Le mot d'ordre était de lutter contre le matérialisme. Et sans pour autant lutter contre le matérialisme, sans pour autant se lier aux dogmes de la religion, de l'Église. Donc essayer de proposer un chemin pour l'esprit, un chemin d'émancipation pour l'esprit, qui ne soit pas enfermé dans une destinée matérielle, et qui ne soit pas non plus confondu avec une appartenance religieuse dogmatique. Ça a été le pari de ce que l'on a appelé le spiritualisme au XIXe, mot un peu tombé en désuétude, mais dont l'enjeu n'est pas insignifiant. C'est-à-dire que, à travers ce que j'ai dit dans ce premier temps où j'ai été un peu long, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit simplement qu'on montre aux élèves qu'ils sont des êtres d'esprit. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'ils ont à attendre autre chose que la retraite et le week-end. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément mal, mais bon, quand même autre chose à attendre de l'existence d'un être d'esprit. Puisque, au fond, Victor Cousin, qui était, vous le savez, le pape organisateur sur une grande partie du XIXe siècle de cet enseignement de philosophie, était persuadé que philosophie et religion poursuivaient les mêmes buts, mais que l'enseignement de philosophie permettait de poursuivre les buts de la religion dans un contexte universitaire, en développant le culte du vrai, du beau et du bien. Lisons rapidement quelques sentences de Victor Cousin. « Les professeurs de philosophie, dit-il, n'ont point à enseigner la religion. Ils n'en ont point le droit, car ils ne parlent pas au nom de Dieu, ils parlent au nom de la raison. Ils doivent donc enseigner la philosophie qui, pour ne pas trahir la raison elle-même, la société et l'État, ne doit rien contenir qui soit contraire à la religion. Je n'honore pas les exigences de la raison si je dis quelque chose qui est contraire à la religion, nous dit Victor Cousin. Mais je ne me contente d'honorer les exigences de la raison. Victor Cousin continue. Les rôles sont trop différents pour être opposés ou pour être échangés. Mais leur fin dernière est la même, la réhabilitation de la dignité de l'âme, la foi en la divine providence et le service de la patrie. Once more, la réhabilitation de la dignité de l'âme, la foi en la divine providence, le service de la patrie. Victor Cousin est en train de nous dire que tout ceci n'est pas contraire à la raison, mais que c'est l'accomplissement même de l'œuvre de la raison. Et qu'en accomplissant cette œuvre de la raison, un être d'esprit va au bout de son chemin. Où en est-on de ces attentes? C'est le point sur lequel, effectivement, on peut s'interroger. Car les programmes de philosophie qui sont les nôtres sont monnayés en un certain nombre de leçons, de notions, pardon, en un certain nombre de notions que le professeur de philosophie choisit de traiter en un certain ordre. Ce programme n'induit pas de problématique. Peut-être vous rappelez-vous qu'il y a eu en 2001-2002 une grève de tous les professeurs de philosophie, j'ai fait grève moi aussi, c'est le seul jour où j'ai fait grève, contre un programme qui était, je crois, concocté par Alain Renaud, je me souviens plus bien, du nom, il vaut mieux oublier les noms dans ces cas-là, et qui... Oui, bon, et qui proposait un programme en induisant des problématiques. Et alors là, de gauche, de droite, du centre, du haut, du bas, rose, rouge, vert, de toutes couleurs, tous les philosophes se sont insurgés en disant que, justement, l'initiative de la problématique, c'est l'honneur du professeur quand même. C'est son risque, c'est son engagement, et sinon, effectivement, si les problématiques sont prédéterminées, ben ça veut dire qu'on a un enseignement totalement idéologique. Il y avait par exemple un sujet dans le genre religion et société. Remarquez, je suis assez vieux pour avoir passé, et peut-être quelques-uns dans la salle, un diplôme qui s'appelait « Morale et sociologie ». Quel couvercle! Donc, si on a soulevé ce couvercle, c'est pas pour en mettre d'autres. Donc, il n'est pas malheureux que le programme se présente actuellement comme une liste de notions qui ne sont pas inintéressantes, qui sont même essentielles à l'exercice de la pensée. Mais ce qui peut nous alerter, et surtout si l'on retourne à des sentences comme celle de Victor Cousin, c'est la disparition de la métaphysique. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'en 1999, lorsque le jury d'agrégation, c'était Bernard Bourgeois, qui, on peut donner les noms, quittant la présidence de l'agrégation, donne le programme de l'agrégation suivante. Il s'en va. Et le programme de l'année suivante, il a donné comme programme la métaphysique. Ça a été une bronca dans le monde universitaire. Comment peut-on parler de choses qui n'existent pas? Enfin, vous voyez le genre d'argument. Donc ça traduit une difficulté que notre enseignement de philosophie, s'il veut honorer toutes les obligations, devra résoudre. Un défi qu'il faut relever. Un enseignement de philosophie mutilé de métaphysique est évidemment complètement plafonné. Et c'est ce qui explique que d'ailleurs que souvent elle va refluer vers les sciences humaines, où on va encore chercher des recettes. Et puis ça induit l'idée maintenant bien acquise dans l'opinion, mais justement nous sommes là pour soulever la dalle de l'opinion, ça induit l'idée que, au fond, les croyances sont irrationnelles, quoi. Et que les gens qui sont croyants, ils sont un peu schizophrènes, ils ont un domaine dans lequel ils sont rationnels, et puis un domaine dans lequel, pour le week-end, ils maintiennent quelques superstitions et des traditions aimables. Ça serait quand même étonnant que l'esprit qui s'interroge sur sa destinée, qui s'interroge sur l'immortalité de l'âme, qui s'interroge sur le sens de sa liberté, qui s'interroge sur l'existence de la divine providence, comme le dit Victor Cousin, se trahisse complètement quand il arrive à ces questions. Je tiens même, et je crois qu'on peut tenir, que ce sont ces questions qui le guident, le mènent. Au fond, la curiosité ultime, c'est la curiosité métaphysique. Et un esprit auquel on refuse la curiosité métaphysique risque bien, effectivement, de refluer dans une autre forme de scepticisme, dans une autre forme de pensée plafonnée. Alors je rappelle que, si vous regardiez l'histoire des programmes, je n'ai regardé ça qu'une fois, je cite ça de mémoire, c'est peut-être faux, mais s'il y a un texte écrit, il faudra que je vérifie mes dates, que Dieu disparaît en 1960. Je vous signale que la personne meurt en 1970. Et que la métaphysique est restée dans un coin du programme jusqu'en 2012. Puis en 2012, elle a disparu. Il y avait un petit chapitre qui s'appelait « La métaphysique, la mort, l'existence ». La mort a disparu.
C'est une demande des parents.
Demande des parents.
Elle a disparu, mais elle n'a pas été vaincue.
Si, par là même, elle a été vaincue. Et donc, heureusement, une fois que la mort est vaincue, on fait l'économie également de ce bouche-trou qu'était l'idée de Dieu. Et donc, la métaphysique disparaît. Et puis, vous n'empêcherez pas, cependant, que n'importe quel esprit un peu agile, c'est-à-dire tous les esprits, se demandent où est passé grand-père, pourquoi est-ce que je suis né à telle date, à tel endroit, que faire de ma contingence, et donc l'interrogation métaphysique est l'interrogation essentielle. Donc si j'avais une critique à faire, et si j'ai une critique à faire à l'enseignement de philosophie tel qu'il est pratiqué, c'est effectivement qu'il soit étêté de son sommet, qui est donc l'interrogation métaphysique, qui était largement honorée dans les anciens programmes. Dans le programme de 1840, il y avait la théodicée. Sous Napoléon III, elle avait été dégommée. L'enseignement de philosophie était remplacé par la logique sous Napoléon III. Mais il y a eu des protestations des professeurs de philosophie qui ont dit « Mais si vous n'enseignez plus que la logique, alors vous allez livrer la jeunesse au matérialisme. » C'est à peu près ce que nous avons entrevu. Donc en faisant silence sur les grandes questions qui nous inquiètent, on tarit la curiosité, mais plus grave que de tarir la curiosité. Je crois que on éduque des esprits prêts à se résigner. Parce qu'au fond, allez, celui qui se dit « bon, ben allez, je ne suis pas un être d'esprit, quelques atomes, puis ils vont se disperser », il est prêt à toutes les résignations. Il lui sera difficile de résister à l'oppression. Il n'est pas impossible qu'il y résiste, mais il sera difficile. Et on sait bien, on voit bien que la résistance à l'oppression vient le plus souvent des êtres les plus exigeants du point de vue spirituel. Et en tout cas, je le vois dans les étudiants. J'ai toujours vu dans les étudiants que les étudiants croyants, par exemple, sont plus curieux que les autres. Contrairement à ce qu'on pense ordinairement. On se dit, ben les croyants, ils ont leur réponse. Mais non. Il faut n'avoir jamais rencontré un croyant pour penser qu'un croyant, il a les réponses. Mais il a les questions.
Il sait ce que c'est qu'une question.
Et il sait ce que c'est qu'une question qui vaut le coup d'être posée. Et il sait que la réponse à cette question, elle va passer par lui. Et c'est pour ça qu'il est croyant. Et qu'elle ne sera pas simplement dans une page de dictionnaire ou dans un parti. Ce qui me renvoie, et j'en aurais terminé, je pourrais céder la parole à Chantal, à la mission, à la vocation du professeur de philosophie, dont j'ai dit qu'il est celui qui donne un visage à la vérité. En effet, vous l'avez compris, le professeur de philosophie doit répondre à deux tâches apparemment contradictoires, car d'une part, il doit transmettre, et d'autre part, il doit faire table rase. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que les méthodes pédagogiques bégayent. Parce qu'il y en a quelques-unes qui disent « Bon, ben alors, il faut faire table rase, donc on fait complètement table rase. » Puis il y en a d'autres qui disent « Bon, ben il faut transmettre, alors on va transmettre des contenus de connaissances. Mais il n'y a pas essentiellement contradiction entre transmettre et faire table rase, si on comprend justement que la condition de la transmission, c'est l'interrogation. Il n'y a de savoir que comme réponse à une question. Donc le professeur de philosophie, et en cela il est héritier de Socrate, est maître en interrogation. Et c'est pour ça qu'il donne visage à la vérité. Dissipons un malentendu. Rassemblez vos souvenirs. Je vous laisse penser pendant quelques instants aux gens dont vous pouvez dire qu'ils ont été pour vous des éveilleurs. Des gens qui ont été pour vous des esprits qui vous ont aidé à vous interroger. Eh bien, je tiens que les esprits qui nous ont aidés à nous interroger sont ceux qui apportent des réponses. Parce que l'adulte qui dit « Moi aussi, je suis en recherche. » C'est le gamin, il dit bah, « Si le vieux, il en est encore là. Ouais, bah, je ne sais pas pourquoi je me lancerai. » Et c'est au contraire celui qui a l'audace de répondre, il ne m'impose pas mais ses réponses, mais au moment même où il répond, il me montre que l'esprit est du mouvement pour aller plus loin, comme dit Malebranche, et que les réponses que lui propose, elles me reviennent à moi comme question. Et ceux qui nous interrogent vraiment sont ceux qui ont l'audace de répondre. Et la véritable modestie du professeur, dans toutes les matières, mais particulièrement en philosophie, c'est de répondre. J'aime beaucoup la formule de Marguerite Léna, et je suis content au passage d'honorer cette grande amie et grande pédagogue, qui dit « Vos élèves ne vous demandent pas d'avoir des réponses, mais de répondre. » Je terminerai par là.
Je propose que nous enchaînions tout de suite avec l'exposé de Chantal. Après, nous ferons comme la dernière fois une pause. On a même du champagne aujourd'hui. Pour une raison qui ne tient pas seulement à la qualité des conférences d'aujourd'hui, mais ce qui suffirait à elle-même à motiver, mais à une bonne nouvelle concernant notre école professorale de Paris, qui va véritablement s'ouvrir à la prochaine rentrée. D'ailleurs, je profite, j'ai quelques dépliants, pour ceux qui n'ont pas encore leurs dépliants, je pourrais leur donner. Et donc, on va vous écouter, on fera cette pause, et après, on reviendra ici pour faire une discussion.
Mais
si vous êtes toujours là.
Oui. Au fond, j'ai pas grand-chose à dire après toi, parce que tu connais tellement bien tout ça, et puis tu as une telle manière de le dire. Enfin bon. Donc finalement, c'est par amitié pour Philippe que je m'ajoute en quelque sorte, mais au fond. Alors, je voudrais juste deux ou trois points. D'ailleurs, on s'était un petit peu organisé. Il était bien évident que tout ce qui est pédagogie de la philosophie. Certainement, j'ai moins de choses à dire. Mais je voudrais insister sur deux ou trois points. D'abord, je voudrais revenir sur ce que Laurent Laforgue avait dit. Et je crois que Laurent Laforgue n'est pas là aujourd'hui. Il avait donné deux ou trois points. Je voudrais simplement dire que ce qu'il a donné pour l'enseignement des mathématiques, c'est vrai pour tout. Et ça paraît très important parce qu'il avait donné un certain nombre de ce n'est même pas des méthodes, c'était des principes, oui, des principes pédagogiques. Je les annonce très rapidement, mais ça me paraît très important parce que même en philosophie, on voit qu'il y a des manquements qui me paraissent assez graves à ce sujet en ce moment. Par exemple, étudier peu de sujets, mais les approfondir. Bon, parce qu'on peut pas, on ne peut pas étudier tout. Ce qu'il faut, c'est apprendre à l'élève qui pourra approfondir d'autres sujets. Au fond, il faut lui apprendre à approfondir, beaucoup plus que vouloir donner tout le savoir. Alors là, bon, on peut bien entre nous citer un peu les choses qu'on a autour de nous. Quand je vois des étudiants qui rentrent à Sciences Po, moi je vous dirais que je déconseille complètement d'entrer à Sciences Po, on lit 150 que sais-je. C'est-à-dire qu'au fond, on essaye d'apprendre tout le savoir sur fiche. Aberrant, non, aberrant, parce qu'on n'apprend absolument pas à approfondir. Donc l'élève de Sciences Po vous dit « Ah oui, moi j'ai lu le que sais-je sur tel ou tel point, tel ou tel sujet. » Bon, il a appris finalement des fiches comme s'il faisait médecine, qu'il faisait de l'anatomie, qu'il faisait... Bon, il faut, en médecine, on est obligé de faire ça au début. Et après, évidemment, on réfléchit, mais je ne dis pas qu'on ne réfléchit pas en médecine ou en droit. On est obligé d'apprendre par cœur. La philosophie, c'est pas ça. Et d'ailleurs, les mathématiques, Laurent Laforgue nous l'a bien expliqué, c'est pas ça. Bon, ensuite, chaque cours doit avoir un sujet précis. Il ne faut pas faire de pot pourri. Alors... Qu'est-ce que ça fabrique, les pots pourris? Ça fabrique des intelligences sauvages. Comme moi, vous avez tous connu des intelligences sauvages. Ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ont une intelligence très très vive, mais qui n'a jamais été rigoureuse. Alors, ça part dans tous les sens, ça s'échappe de partout. Souvent, c'est génial. Parfois, c'est nul, parce que justement, tout est en contradiction. Et les professeurs peuvent fabriquer des intelligences sauvages comme ça, s'ils ne sont pas capables eux-mêmes de donner un sujet... un sujet précis à leur cours. Bon, et puis, un autre point très précis qui, à mon avis, manque un peu à l'appel parfois ici, aujourd'hui, étudier des sujets qui parlent à l'esprit de façon instinctive, de façon concrète. Tu as parlé du pédagogisme tout à l'heure, où justement on est en plein dans l'abstraction. On peut toujours ramener tous les sujets à des points concrets. Tu as parlé de la métaphysique, évidemment, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, il est rare qu'on ne soit pas d'accord, donc ça tombe bien. La métaphysique elle-même est concrète. Bon, parce que, comme tu l'as dit, on est bien tous obligés quand même de se poser la question de la vie, de la mort, du destin, de la contingence, de la liberté, etc. Donc, dire comme dit Borges, que, bon, mais là, il parle plutôt de la théologie, mais nos collègues le disent pour la métaphysique, que la métaphysique est un chapitre de la littérature fantastique, ben non. Hein. C'est pas un chapitre de la littérature fantastique, ce sont des vraies questions qu'on se pose de façon instinctive et qui sont concrètes. Et il faut, je crois, ramener toutes nos questions à des questions que les élèves peuvent se poser. Bon, et puis, et c'est un point sur lequel je vais juste revenir à la fin, expliquer chaque chose de plusieurs manières et de plusieurs points de vue. Bon. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'apprendre la diversité des perspectives et puis ça permet d'avoir accès aux doutes. Alors, Je voulais simplement dire ça. J'ai été très intéressée par l'exposé de Laurent Laforgue et je pense que c'est d'ailleurs assez rassurant de voir que ce qu'il a dit était valable pour d'autres disciplines et je crois que pour nous c'est absolument valable aussi. Alors moi j'ai un parcours qui est complètement différent de celui de Jean-Noël. J'ai commencé plus tard d'abord. J'ai donné beaucoup de cours dans des pays étrangers et on avait dit entre nous que je pourrais juste dire un mot de tout ça. Qu'est-ce qui m'a frappé au fond? Qu'est-ce qui m'a frappé à donner des cours dans des pays de toutes sortes? Au fond, ce qui est propre à l'Europe occidentale et centrale, j'ajouterais centrale parce que ce que vous trouvez en France, en Allemagne, vous allez trouver aussi en Pologne ou en Hongrie, c'est quand même une forme de rigueur. Alors, quand on parle de la dissertation française, eh bien, c'est pas du cocorico, c'est vrai, ça existe. La dissertation française, qui effectivement peut exister dans des pays voisins aussi, mais ben, vous ne la trouvez pas en Chine. Ça, je suis désolé, vous ne la trouvez pas ni en Chine, ni dans beaucoup d'autres pays, en Amérique latine, pas du tout, par exemple, et pourtant c'est un pays latin, chrétien quand même au départ, donc c'est la même culture que nous, bien sûr, mais la dissertation française, c'est quand même quelque chose de rigoureux, où les arguments avancent, et ça peut paraître comme ça, simplement formel et finalement pas très intéressant, mais c'est très intéressant, parce que quand vous posez une vraie question, vous posez une problématique, tu as cité tout à l'heure des exemples de dissertation, eh bien, quand on a appris à faire une dissertation, eh bien, on avance de façon ordonnée et rigoureuse, et puis après, bon, on arrive quand même, on essaie d'arriver quelque part. Moi, je vois tous mes étudiants qui n'ont pas été formés à ça, qui viennent soit de pays étrangers, soit qui sont dans des pays étrangers, eh bien, ça part dans tous les sens. Ça recueille une idée par-ci, une idée par-là, qui sont contradictoires entre elles ou qui ne se suivent pas. Il y a des ordres de causes et de conséquences qui ne sont ni cause ni conséquence, parce qu'en fait, la conséquence est avant la cause, et etc., etc. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Autrement dit, je pense que c'est quand même très, très, très important d'apprendre la rigueur, parce que je pense que c'est l'une de nos richesses en France. On dit que nous sommes un pays cartésien, je pense que ça se voit tout à fait lorsqu'on fait de la philosophie un peu à l'extérieur. Alors, nous avons quand même en France des atouts, et là je te rejoins complètement, je pense qu'on a de très grands atouts. Il n'y a pas très longtemps, j'étais un colloque au Québec, et j'étais toute seule, on était seulement deux Français, et on était reçus dans un endroit absolument splendide pour soi-disant faire de la philosophie. Et j'ai dit à mon collègue en sortant, mais je suis peut-être un petit peu méchante, ici il y a beaucoup d'argent et pas beaucoup d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, on se trouve quand même en France dans un lieu, à mon avis, privilégié, où il y a beaucoup de gens qui pensent, bon, parfois ils pensent un peu n'importe comment, et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais on se trouve dans des endroits quand même privilégiés, où on va chercher quand même les grands auteurs. Bon, on a déjà des professeurs du secondaire qui sont remarquables, un certain nombre, et ça je crois qu'il faut le garder, parce que nous avons une véritable richesse. Le fait d'aller à l'étranger nous met quand même sous les yeux le fait que finalement nous ne sommes pas si mauvais que ça. En philosophie, j'ajouterais que nous avons, à mon avis, je suis sûr qu'il y a des philosophes ici, vous me direz si, un atout comme considérable, c'est que nous avons très peu de philosophie analytique. Très peu. Non, tu ne serais pas d'accord avec ça? Bon.
Oui, c'est sûr, mais on en a.
Bien sûr qu'on en a.
Mais heureusement,
par rapport à l'Amérique du Nord, on en a très peu. Hein. Et la philosophie analytique est en train de se développer, mais comme un feu de forêt dans le Midi, dans des endroits comme la Roumanie, par exemple, qui sont des endroits très détruits spirituellement et philosophiquement, il y a tout un tas de raisons à ça, la philosophie analytique s'étend, mais d'une façon incroyable. Et je trouve qu'ici, on résiste quand même. Bon. Alors, je dirais que nous avons deux défauts principaux. C'est que d'abord, qui ne sont pas du tout de même nature, mais la philosophie est quand même très souvent en France, plus ou moins limitée à l'histoire de la philosophie. Et ça, c'est quand même assez dommage, hein, parce que la philosophie, c'est pas seulement l'histoire de la philosophie, même si bien sûr ça doit commencer aussi par là. Ça s'apparente, à mon sens, à toutes ces réductions au musée qu'on trouve dans l'art, dans la biologie. Hein, voyez, Il faut que tout reste comme ça était. Alors, ça, c'est un, je pense que c'est une vraie question. Et puis, nous avons évidemment un problème dans les universités. Et c'est aussi à ça que Philippe Nemo veut remédier. On le fera autant qu'on peut parce que nous n'avons pas toutes les clés pour ça. Nous avons un niveau insuffisant des étudiants. Je voudrais juste en dire un mot. Nous avons un niveau très bas, de plus en plus bas. Moi, je suis à l'université depuis seulement une vingtaine d'années, mais je vois le niveau qui baisse de façon considérable. Non pas parce que les étudiants sont moins bons, mais parce que nous avons toujours ce tout petit nombre d'étudiants excellents, disons 3%, je dis ça au hasard, ça peut peut-être c'est 2 ou peut-être c'est 5, j'en sais rien, mais ils sont noyés au milieu d'une masse de gens qui ne devraient pas être là. Et la plupart de mes étudiants, moi je suis à la retraite depuis 3 mois, donc encore jusqu'à l'année dernière, voilà, la plupart de mes étudiants qui sont en master 1 ou 2, donc ils font déjà des études de philosophie politique ou sciences politiques en master 1 ou 2, et la plupart d'entre eux ne rêvaient que d'une chose, c'est de rentrer dans un IUT pour faire de la compta. Il faut bien voir ça.
Ils n'ont pas été admis
en IUT parce que c'est très dur d'y rentrer, et du coup on les a poussés en première année d'histoire, première année de socio, première année de psycho, où ils s'enquiquinent comme tout, où ils passent. En fin d'année, tout le temps, ils passent parce qu'on laisse passer tout le monde et qu'on n'ose plus donner des mauvaises notes. Mais ils sont malheureux comme les pierres. Et évidemment, ils ne feront rien avec leur Master 2 de Sciences Po. Et ça, c'est quand même, je dirais, dans mon cas, c'est ce que j'ai vu, 70%. Dramatique. Hein. Et c'est pour ça que le niveau est faible. C'est pas parce que nos étudiants sont moins bons qu'avant. Je pense que les étudiants excellents, ils sont toujours là. Alors, évidemment, les étudiants excellents avant, ils faisaient du latin grec. Je pense que nous deux, on devait être des étudiants plutôt bons, hein, me semble-t-il. On faisait du latin grec. Maintenant, ils ne font pas du latin grec. Ils font de l'arabe, du chinois, du russe. Bon, c'est bien aussi. Hein. Je ne veux pas dire que c'était bien avant, on était meilleurs qu'eux. Non, ils sont... Et donc, ces étudiants excellents, voilà ce qu'ils font. Mais ils sont toujours excellents, ils sont toujours là. Simplement, ils sont noyés au milieu d'un peuple de gens qui ne sont pas au bon endroit. Et ça, c'est un gros problème français. Mais évidemment, on va pas, nous, on n'a pas les moyens de le résoudre. Enfin bon. Alors, je dirais juste une chose pour terminer. Et Philippe, je vous ferai une proposition. Tu as parlé de la quête de la vérité. Je pense que c'est très 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 important de parler de la quête de la vérité, parce qu'au fond, en Occident, je dirais en Europe occidentale d'abord et en Europe, dans les pays judéo-chrétiens, bon, dites comme vous voudrez, ou en Occident, nous avons ce qu'on appelle des universités. Et les universités, ce n'est pas quelque chose qui existe partout, c'est quelque chose qui n'existe que chez nous. N'écoutez pas, évidemment, vous savez bien qu'il ne faut pas écouter les journalistes qui vous disent « Ah, mais les premières madrassas, ça a commencé avant nos universités, et sont déjà des premières universités. » Non, les madrassas ne sont pas des universités. Les universités ne sont pas des endroits où on récite un catéchisme. Ce sont des endroits où on quête la vérité. Et on passe par le doute. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que nos étudiants devraient le savoir, parce que vous l'aurez remarqué, les étudiants ne le savent pas. C'est pour ça que je vous fais, pour finir, une proposition. Je pense qu'il faudrait que tous les étudiants de notre école connaissent deux auteurs, totalement inconnus, bien sûr, à savoir Comenius, Jean Kominski, qui explique ce que c'est que l'école à partir de l'idée de création, ce que c'est qu'une éducation d'initiative qui fera suite à l'éducation d'initiation qu'on trouve partout dans tous les pays du monde. Et nous, nous créons l'éducation d'initiative à partir de l'idée de personne. Et ça, ça se trouve chez Comenius. Ce sont des livres qui sont publiés en français. Et ça, il faudrait que les étudiants le sachent. Et bien sûr, on ne leur dit pas. Et la deuxième chose, c'est Newman. Je pense que tous nos étudiants devraient connaître Newman. Il y a un très bon livre de notre collègue Hervé Pasqua là-dessus. L'idée d'université. Savoir ce que c'est qu'une université. Une quête de la vérité en passant par un doute intelligent. Je crois que ça serait très important de leur donner ce genre de... Oui ? Comenius. Alors, c'est la grande didactique. On peut trouver la grande didactique en français. Il y a plusieurs livres en français maintenant. Essentiellement, c'est la grande didactique. Voilà, mais je termine là, parce que je n'ai pas
plus grand-chose à dire. Maintenant que ces deux professeurs ont donné des réponses, vous allez peut-être avoir des questions à poser. Mais nous ferons après la pause, dans 5-10 minutes.